Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian, parle.
Salut Louis.
Comment vas-tu?
Ça va bien.
Bon, on va commencer avec une histoire de momie. Ça fait bien 15 minutes qu'on n'en a pas parlé.
Ouais,
on en parlait la semaine passée d'ailleurs, puis l'autre semaine d'avant.
Oui, mais là c'est une autre momie.
Inca, celle-là.
Oui, c'est une momie Inca. J'imagine que la plupart des auditeurs ont lu ou vu l'adaptation de Tintin et les sept boules de cristal et le temple du soleil avec la méchante momie de Raskar Kapak.
Oui, et la boule de feu.
Oui, absolument. Et souvent, ces histoires de momies, que ce soit des momies égyptiennes ou des momies Inca, comme dans le cas de Tintin et les sept boules de cristal, il y a souvent des légendes de malédiction qui entourent ces histoires de momies.
Ben, d'ailleurs, c'était au cœur des sept boules de cristal.
Voilà, c'est la
les
malédiction.
Savants qui avaient...
qui étaient aux prises avec des mots étranges parce qu'ils avaient osé toucher à la momie de Raskar Kapak. Ouais. Et bien sûr, la malédiction parce que Tournesol s'est emparé du bracelet sacré de Raskar Kapak. Et souvent, donc, on a toutes ces légendes de malédiction qui entourent les histoires de momies. Qui n'a pas entendu parler de la malédiction de la découverte du tombeau de Toutankhamon où on raconte que plusieurs archéologues ou des membres proches de l'équipe d'archéologues sont décédés dans des circonstances un peu nébuleuses assez rapidement après la découverte de la momie. Vrai ou faux? Quoi qu'il en soit, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, elle tient de la, entre guillemets, de la vérité scientifique. C'est une publication, c'est un article qui vient de paraître dans Archaeometry, qui est un périodique scientifique qui se consacre à l'archéologie. Et on apprend que ces histoires de malédiction de momies ne sont peut-être pas uniquement des foutaises ou des histoires à faire peur. Voilà que on apprend qu'une équipe d'archéologues s'est penchée sur deux momies qui avaient été découvertes au nord du Chili en 1975. Il faut savoir que le domaine occupé par les Incas allait du nord du Chili jusqu'à peu près en Colombie. C'était le grand territoire des Incas. Donc, on trouve ces deux momies en 1975. Ce sont deux momies de jeunes femmes, des adolescentes. Je pense que la plus jeune avait aux alentours de 11 ou 12 ans et la plus vieille 17 ou 18 ans. Il est clair que ces momies, les deux jeunes femmes avaient été sacrifiées dans un rituel. Donc, on parle de sacrifice humain. Et elles étaient parées, bien sûr, de bijoux et de vêtements. Contrairement aux momies égyptiennes, les Incas ne faisaient pas un rituel de momification, mais laissaient les momies dans un endroit excessivement sec. Et là, les momies se desséchaient littéralement.
Le corps séchait, voilà. Dans le fond.
Donc, quand on parle de momies, entendons-nous, on parle plutôt de corps recroquevillés un peu en position fœtale et qui ont séché par un environnement qui permettait ça. Donc, les scientifiques ont analysé donc récemment ces deux momies et ce qu'ils ont découvert, c'est que le rouge utilisé pour la coloration des vêtements, les vêtements avaient été spécialement teints pour la cérémonie, et ces vêtements contenaient du cinabre. Et du cinabre, on l'utilisait souvent comme colorant rouge, mais ça peut entraîner un empoisonnement parce qu'il y a du mercure à l'intérieur.
Aha!
Et ça peut créer un empoisonnement au mercure. Et là, la quantité de cinabre était très élevée dans les vêtements de nos deux momies. Alors là, les archéologues se disent, voilà ce qui pourrait expliquer, parce que un empoisonnement au mercure entraîne bien sûr des problèmes neurologiques, des étourdissements, des maux de tête, et éventuellement, ça peut même entraîner la mort. Et les scientifiques se posent la question, pourquoi est-ce que l'on faisait ce genre de rituel? Pourquoi utiliser une matière aussi dangereuse?
Mais est-ce qu'on le faisait consciemment ou si on le faisait...
Voilà, c'est la question qu'on se pose. Si on le faisait consciemment, pourquoi utiliser cette matière dangereuse dans un rituel comme celui-là? Il fallait donc que les Incas voient dans la manipulation de cette substance quelque chose de sacré. Ou encore, quand le faisant, on voulait tenir éloigné les éventuels pilleurs de tombes. Et évidemment, si on a pillé des tombes et que les momies étaient parées de vêtements semblables, on comprend que les pilleurs de tombes aient souffert de maux divers et éventuellement ont alimenté les légendes de malédiction associées aux momies.
Ça fait juste démontrer que Hergé, quand il faisait même... Parce que ça, les sept boules de cristal, ça doit remonter aux années... 5 ans?
À peu près,
Puis même 40, est-ce qu'on me dit? Alors, ça veut dire, puis il faisait une recherche scientifique assez impressionnante quand même.
Je me rappelle à Québec, il y a quelques années, on avait fait une exposition Hergé et on montrait des planches à dessin, le travail de recherche qui se cachait derrière chaque bande dessinée de Tintin. Ouais. On voit que Hergé faisait un travail vraiment là, de moine pour se documenter et le plus possible, bien sûr, de rendre des détails véridiques dans ses histoires. Moi, je me rappelle, par exemple, mon album favori de Tintin, c'était Tintin au Tibet. Mm-hmm. Et lorsque...
À cause du Yéti,
bien sûr. Évidemment. Et ce qui était amusant, c'est que les empreintes du Yéti, on voit que Hergé s'était directement inspiré de photographies qui avaient été prises dans l'Himalaya en 1951 par un alpiniste britannique, Eric Shipton, qui avait photographié apparemment des empreintes de pieds du Yéti. Et on voit que c'est clairement une transposition de ça que Hergé a utilisé pour son album Tintin Tibet. C'était vraiment un type extraordinaire.
Mais pour un gars comme toi, il doit y en avoir plein d'albums préférés d'Hergé. On a marché sur la Lune, Objectif Lune, les 7 boules de cristal.
Bien sûr.
Effectivement.
Vol 714 pour Sydney.
Voilà. Et ça nous amène à notre deuxième sujet.
Qui est la dispersion du Vosche, MH370. Ouais. Voilà. Et dans cette histoire-là, bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on parle en ondes de la dispersion du MH370.
C'est le vol de la Malaysia Airlines. Là.
C'est la Malaysia Airlines. On est en mars 2014. Ouais. L'appareil décolle de Kuala Lumpur. Il doit faire une liaison vers Pékin. Ouais. Il y a 239 passagers à bord. On parle d'un Boeing 777. Et peu de temps après son décollage de l'aéroport de Kuala Lumpur, volontairement, on a coupé les transpondeurs de l'appareil. L'appareil a fait demi-tour pour finalement disparaître des écrans radars. Et on suppose, comme l'appareil n'est jamais arrivé à destination, on suppose qu'il s'est probablement abîmé en mer. Et là, on parlait d'une zone quelque part entre l'Inde et l'Australie. Mais malheureusement, toutes les recherches menées jusqu'à maintenant se sont révélées vaines. On n'a jamais retrouvé l'appareil en question. Quelques débris ont été retrouvés sur la côte africaine. Une quinzaine de débris au total. Ouais. Et les experts reconnaissent que ces débris pouvaient provenir de l'appareil ou étaient certainement de l'appareil. Donc, dans certains cas, on n'a pas pu faire une identification officielle. Dans d'autres cas, oui. Et pourquoi je te parle de cette histoire-là? Parce qu'encore, on se rappelle qu'en début d'année, une compagnie américaine, Ocean Infinity, s'était lancée dans la quête de cette épave du Boeing 777. Mais malheureusement, après 2 mois d'efforts, ils ont dû baisser les bras. Et lundi dernier, le gouvernement malais de la Malaisie a rendu public son rapport officiel d'enquête, rapport final, qui a entraîné la démission du ministre qui était le ministre Azharuddin Abdul Rahman, qui était de l'aviation civile malaisienne, qui a démissionné de son poste avec la publication de ce rapport dans lequel les experts reconnaissent qui n'ont aucune idée de ce qui s'est produit. Oui. On n'est pas capable, bien sûr, d'identifier les raisons, les motivations. On a suspecté à un moment donné un pilote, le copilote, des membres du personnel.
Mais ce qu'on laisse quand même en lisant le rapport, parce que j'en ai lu une bonne partie, on laisse entendre qu'il y a eu c'est une intervention humaine qui était l'origine de l'accident. Là.
On parle d'un rapport, moi aussi je l'ai lu, on parle d'un volumineux rapport, presque 500 pages.
495,
voilà. Et dans ce document, on laisse croire très clairement que c'est une volonté humaine qui est derrière la disparition de l'appareil. Mais les autorités reconnaissent également, elles ne sont pas tendres pour un laxisme qu'il y a eu. Parce qu'il faut savoir que quand l'appareil a fait demi-tour, les contrôleurs de Kuala Lumpur, donc les contrôleurs de l'État de la Malaisie, ont laissé passer l'appareil parce qu'il volait près du Vietnam. Ouais. Et on s'est dit, ce sont les radars du Vietnam qui vont prendre le relais. Ouais. Et au Vietnam, on a fait exactement la même chose en disant, c'est la Malaisie qui vont suivre l'appareil. Et ce laxisme-là a fait qu'éventuellement, on a perdu la trace de l'appareil. Le rapport est excessivement critique pour les mesures d'urgence qui ont été appliquées, le temps également qu'on a mis avant de lancer les premières recherches. Et bien sûr, on cible directement le ministère, les autorités en place, d'où un peu la démission du ministre de l'Aviation civile. Pour l'instant, avec le rapport, on ne donne pas d'explication, on ne sait pas ce qui s'est produit, on semble bel et bien pointer du doigt une intervention humaine. Oui. Et le rapport ferme un peu la porte à d'éventuelles recherches. Ça, on le comprend, c'est quelque chose qui doit choquer les familles des passagers, des disparus. Malheureusement, c'est à ce jour la recherche en mer la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation, dans le but de retrouver cet appareil qu'on n'a pas retrouvé. Oui. Et là, là. Donc, les autorités de la Malaisie ferment un peu la porte à d'éventuelles recherches. Je pense que les gens devront faire leur deuil à défaut de retrouver l'appareil.
On va le trouver un jour, par hasard, en tombant sur
absolument. Je pense qu'éventuellement, on va chercher des épaves et un truc comme ça, et on va éventuellement tomber sur l'appareil.
Ouais. Christian, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler d'épaves, mais là, il y a des chasseurs de trésors qui ont retrouvé les pages du Dimitri Donskoï.
Oui, et ce n'est pas c'est pas la moindre des épaves. Il faut savoir, dans les amateurs, les gens qui font des recherches de trésors, jusqu'à maintenant, la plus grosse pièce retrouvée, c'est un navire espagnol, la Señora de Atocha, qui a été retrouvée dans les années 80 par un dénommé Mel Fisher, qui avait rapporté à son découvreur 480 millions de dollars. C'était quand même des sous.
Ben oui, ça donne l'idée de chercher.
Absolument. Et là, voilà qu'on vient de retrouver le Dimitri Donskoï. Et pourquoi ce navire-là jouit d'une telle réputation auprès des amateurs, les chasseurs de trésors? C'est parce que, crois-le ou non, on raconte, et ça c'est la légende, hein, on raconte qu'au début du 20e siècle, on est en 1905, la Russie du tsar Nicolas II est en guerre contre le Japon. On a besoin de sous pour supporter l'effort de guerre russe.
Ouais.
Et là, on aurait transporté une cargaison de lingots d'or sur le Donskoï. Et le navire a été torpillé, coulé par les Japonais.
Ah bon?
Alors, et on évalue aujourd'hui la cargaison du Donskoï à 130 milliards de dollars. Évidemment, ça fait rêver, retrouver le Donskoï, ça fait rêver. Et là, voilà qu'une équipe de chasseurs de trésors de Séoul ont annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient retrouvé l'épave. Et effectivement, j'ai pu voir des images sous-marines où on voit clairement le nom du navire. C'est quand même extraordinaire qu'on ait pu trouver une surface qui était suffisamment dégagée de coraux pour qu'on puisse voir le nom du navire. Il ne fait donc aucun doute qu'on est bel et bien ici en présence du Dimitri Donskoï.
Alors là, évidemment, tout le monde cherche
tout le monde rêve. Ils ont monté un petit coffre. Ils ont monté un petit coffre qui ne contenait pas grand-chose.
Ouais.
Mais éventuellement, d'ici la fin de l'année, ils ont l'intention de renflouer l'épave.
Ah oui?
Donc,
il est dans un état suffisamment bien conservé pour le faire.
La partie avant est très endommagée, mais le corps principal du navire est suffisamment en bon état. Il repose par 450 mètres de fond. C'est quand même 1500 pieds, à peu près 1400 pieds. Donc, on va le ramener à la surface et là, évidemment, explorer l'épave. Et là, bien sûr, ça fait rêver. Ça fait rêver les chasseurs de trésors, mais ça ne fait pas rêver les historiens. Parce que pour les historiens, tout ça n'est qu'un mythe. En fait, pour eux, l'histoire de cette cargaison fabuleuse qu'aurait transporté le Donskoï leur semble un petit peu tiré par les cheveux.
Attends un petit peu. Là, attention.
Attention, capitaine!
Tu connais l'opération Fish dans la Deuxième Guerre mondiale?
L'opération Fish.
Oui. Durant la Deuxième Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, George VI s'en vient en visite au Québec.
Oui.
Alors, il part de l'Angleterre à bord de l'Empress of Australia, qui est un paquebot, et qui était suivi par deux destroyers britanniques pour l'escorter. Il y avait entre autres le Southampton.
Okay.
Alors, il traverse l'Atlantique, se présente dans le golfe du Saint-Laurent, je pense que c'était le 17 mai 1939, donc quelques mois
avant la guerre,
parce que ça a été déclenché en septembre. Alors là, les navires s'amarrent au quai de Québec. Tout juste passé la ville de Québec. Là. Et là, le roi George VI sort avec sa femme, puis ils sont accueillis par Mackenzie King, puis là, ils partent, puis c'est la grande tournée. Puis les médias sont concentrés sur eux. Dès qu'ils ont quitté le port de Québec, là, les journalistes, eux autres, ils continuent à suivre le roi, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, il y a un train qui c'est parce que juste à cet endroit-là, il y a des rails de chemin de fer.
Oui.
Le train s'arrête et là, il y a une opération de transbordement parce que on avait commencé à vider le trésor britannique de crainte que les Allemands éventuellement envahissent l'Angleterre. Et on avait transvidé des lingots d'or pour des millions et des millions en valeur de lingots d'or à bord d'un train qui avait été amené là-bas, surveillé par des policiers de la GRC, par l'armée canadienne. On a transbordé l'or à bord du train. On a pris l'or pour l'amener ici à Montréal, juste pas très loin d'ici, là, dans le secteur des banques, là, okay. le vieil édifice de la Banque de Montréal, etc. Oui. Là. On avait amené l'or à cet endroit-là, puis après ça, on l'a transféré à Ottawa. Et c'est exactement la même opération que tu décris avec le Dimitri Donskoï.
En fait, pour le Donskoï, là où les historiens semblent un peu sont sceptiques par rapport à la cargaison, c'est de se dire qu'il aurait été plus simple pour le tsar de faire transiter l'or par convoi ferroviaire, ouais, plutôt que de le faire transporter sur un navire et surtout de mettre toute la cargaison dans un seul et même navire, mmh, alors qu'on était en guerre contre les Japonais. Donc, eux disent, si le tsar avait pris cette décision de transporter par bateau l'or, il aurait probablement utilisé plusieurs navires pour pouvoir éviter éventuellement si l'un d'entre eux était coulé. On n'aurait pas mis, comme on dit, tous nos œufs dans le même panier. Or, c'est un peu ce que raconte l'histoire du Donskoï. C'est comme si on avait mis toute la cargaison de tous ces lingots dans un seul et même navire. Donc, quoi qu'il en soit, on va attendre que le navire soit renfloué, mais on sera peut-être en présence de la plus importante cargaison, on parle en termes monétaires, jamais retrouvée dans une épave. On parle de 130 milliards de dollars.
Mais si, par exemple, est-ce que l'argent appartient à ceux qui ont découvert l'épave? Je pense que oui.
Hein? Ça, c'est assez amusant parce que je regardais un peu, il y a quand même l'entreprise elle-même pourra toucher à peu près 50% de la valeur du navire. L'autre 50% sera redonné à la Fédération de Russie puisque c'était le pavillon du navire au moment où il a sombré.
Ah bon, d'accord.
Donc, encore une partie du trésor qui va appartenir à devra être remis à la Russie.
Bon, en quoi, deux minutes ou à peu près, il y a un jeune néo-écossais, Gillis Hogan, qui va recevoir une bourse pour étudier les fées.
Les fées. Et ça a fait beaucoup réagir. C'est sorti il y a quelques jours. Ouh. Mais il faut quand même remettre ça un peu dans le contexte. Ça me fait sourire parce que, bon, bien sûr, avec un titre accrocheur, il reçoit 29 000 $ pour aller enquêter sur les fées. C'est en fait le montant de la bourse, c'est 29 000 $ Il y a également ses frais d'étudiants qui seront payés. Ouais. Donc, cet étudiant, on parle ici d'un néo-écossais, hein, ouais, un jeune homme de la Nouvelle-Écosse, qui est le lauréat du Rothmere Fellowship. Donc, avec ces sommes d'argent, il pourra aller étudier à l'Université d'Exeter et il va étudier la magie, la sorcellerie et les incantations sur les fées. Alors, évidemment, les gens...
Ben, c'est les légendes entourant ça.
Voilà. Donc là, les gens se disent, mais c'est très frivole comme idée. Mais bien sûr, le titre est accrocheur, mais dans les faits, il faut bien comprendre qu'avant l'avènement du christianisme en, ouais, Europe, on était en présence de sociétés païennes qui adhéraient à toutes sortes de croyances. Mmh. Leur mythe était peuplé de créatures fabuleuses, dont notamment les fées, et il y avait toutes sortes de rituels magico-religieux. Donc, notre jeune étudiant s'en va là-bas, mais dans une vision beaucoup plus anthropologique.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Voir un peu comment les cultures se sont organisées autour de grands mythes qui étaient un peu fondateurs pour la plupart des sociétés païennes qui vivaient en Europe à ce moment-là.
Mmh. Donc, rappelez chez Walt Disney pour pouvoir... il y a la fée Clochette,
la fée Clochette, bien sûr. De quoi passer des bonnes soirées. Mais... donc c'est vraiment dans un cadre anthropologique, même si c'est vrai que le titre peut faire sourire comme celui-là. Et il faut savoir que l'Université d'Exeter a autrefois accueilli J.K. Rowling, qui a écrit, bien sûr, Harry Potter.
Ben oui, Harry Potter.
Donc,
oui,
comment ne pas faire le lien, bien sûr, cette magie, les fées et tout cet univers un peu fantastique.
Wow! Alors, comme quoi, n'est-ce pas, on finance à peu près n'importe quoi.
Oui, c'est ça. Écoute, il me reste encore quelques secondes.
Il te reste 15 secondes.
15 secondes, ben pour te dire qu'on a commencé à voir sur le canal History aux États-Unis,
oui,
les premières images d'une série. On a adapté les études sur le projet des ovnis. Le projet Blue Book a été adapté en mini-série, okay, et ça va être diffusé cet automne. Le projet Blue Book à surveiller.